Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Héron.
On n'impose pas une langue par la force.
Non, non, on ne peut pas. Une langue, c'est le cœur d'une culture. Une langue forcée sur les gens, ça provoque toujours les malentendus et tout de suite après les manifestations et après la lutte contre cette langue.
Vous allez découvrir, chers auditeurs, pourquoi nous avons décidé de commencer cette seconde journée passée à Johannesburg par cette réflexion de Nicolas Ty, l'avocat, ancien président de l'institution qui nous accueille aujourd'hui, l'Alliance française de sa ville, la capitale économique de l'Afrique du Sud. On va comprendre l'importance d'une langue dans cette jeune démocratie qui a enterré l'apartheid uniquement depuis 1994 avec l'élection de Nelson Mandela. Et pour nous raconter cette histoire brûlante, ses défis et ses attentes, nous allons faire aujourd'hui la rencontre de personnages étonnants qui gravitent autour de cette bulle francophone et francophile. C'est eux qui vont nous expliquer ce que représente dans ce pays anglophone deux fois grand comme la France, ce qui est bien plus qu'un slogan, mais qui contient un rêve, la nation arc-en-ciel.
Terre d'Alliance, Alexandre Héron, sur France Inter.
Les choses ont bien changé depuis cet album Graceland que Paul Simon enregistrait en 1986 avec uniquement des artistes sud-africains en plein apartheid, dans un pays dont le régime était à l'époque boycotté par le monde entier. Au printemps dernier, au début de l'hiver austral, nous sommes arrivés à Joburg comme il se doit, en garant notre voiture dans un parking d'un des malls, ces énormes centres commerciaux à l'américaine qui rythment la vie sociale de chaque citoyen là-bas, dont le moteur est devenu, comme partout ailleurs, la consommation. On va ouvrir notre seconde promenade dans les arcanes de l'histoire récente de ce pays avec ce chanteur de rue à la voix incandescente qui, lorsque je lui proposais de vous interpréter un morceau de son choix pour vous, chers auditeurs francophiles et francophones, a choisi cette fameuse chanson.
Louis Armstrong.
Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too, and I see them blue for me and you. And then I think to myself, what a wonderful world, the color of the rainbow, so pretty in the sky, is also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying how do you do, they rarely say I love you.
Ah, quel monde merveilleux! Un cadeau dont le double sens apparaît évident, ce début de balade sondant les traces de l'apartheid et ses failles. Une balade que nous commençons sous la houlette de notre hôte de l'Alliance française Jean Bourdin avec la rencontre de l'un des personnages les plus importants de l'histoire de ces 25 dernières années de l'Alliance, celle de l'avocat engagé dans la lutte anti-apartheid, Nicolas Ty, ancien président de l'Alliance là-bas, ancien président d'honneur et aujourd'hui membre actif de son conseil d'administration.
Bonjour. Bonjour, ça va?
Comment vous allez?
Ah, très bien, merci. Bah, j'ai un cadeau pour vous.
Quel cadeau?
Ici,
la Charte de la Liberté.
La Charte de la Liberté, signée la première fois le 26 juin 1955 à Clipton, Soweto. Nous allons là-bas plus tard à Soweto. Et moi, je faisais partie de United Democratic Front.
Voilà, le Front démocratique.
C'est ça. Et c'était évidemment pendant la lutte contre l'apartheid. Voilà.
Et le premier point qui a été signé dans cette charte de la liberté, c'est important de le souligner, the people shall govern.
Oui, c'est ça.
Le droit du peuple à gouverner lui-même.
Mais à cette époque-là, c'était que des Blancs qui régnaient ici en Afrique du Sud. C'était franchement difficile pour les Noirs. La première fois que les Noirs ont voté ici en Afrique du Sud entièrement, c'était en 1994. Donc ça faisait à peu près 40 ans plus tard.
Et aujourd'hui, on va essayer de voir justement quels sont les progrès qui ont été établis ici par cette jeune démocratie, finalement. Le second point, c'est tous les groupes, quels qu'ils soient, doivent avoir des droits égaux.
J'espère que oui. Oui, absolument, maintenant. Mais nous savons bien que nous n'avons pas encore trouvé ça, car il y a un décalage entre les riches et les pauvres ici en Afrique du Sud qui est tellement inquiétant. Donc, malgré le fait que nous avons maintenant obtenu la liberté politique, nous n'avons pas encore obtenu la liberté économique. Donc, pour les prochaines 50 ans, à mon avis, ça serait le conflit et le challenge. On a changé notre lexicon ici en Afrique du Sud. Tous les problèmes dans le passé, maintenant, on les appelle challenge.
Ouais. Des défis encore à relever.
On ne peut pas le faire dans 20 ans. L'apartheid existait dans le mot même depuis 48, mais en vérité, ça existait depuis 1652.
Depuis la fondation de ce pays ?
Absolument, par les Blancs. En fait, ça n'était pas découvert par les Blancs, ça existait avant, bien sûr. Mais les Blancs sont arrivés en masse à partir de 1652, et certainement avec les Anglais qui sont arrivés en 1806, qui sont restés ici en charge jusqu'en 1961. Donc on ne peut pas changer en 20 ans toutes les difficultés qu'on a eues pendant 350 ans. Donc à mon avis, je constate, il faut qu'on bosse, on travaille pendant encore 50 ans au moins.
La porte qui s'ouvre est la porte qui s'ouvre vers la pharmacie et son comptoir, où on ne va pas parler français, hein, Lisa.
Kan ek asseblief daai vitamine B goeders kry? Gee, jy het vir my B6. Dit is so multivitamine.
Alors cette langue a des sonorités évidemment néerlandaises. Elle vient d'où?
Absolument.
L'africaine.
C'est, on peut dire, une simplification du néerlandais avec beaucoup d'influence d'autres mots, par exemple, qui viennent de Malaisie, parce que c'était d'abord parlé dans les cuisines au Cap, qui étaient colonisées par les néerlandais, bien sûr. Les patrons parlaient néerlandais, Hoogholland, comme on disait. Et l'afrikaans, et petit à petit, s'est installé comme une vraie langue, c'est une des langues officielles. Moi, je trouve que c'est une magnifique langue avec la poésie, une littérature vraiment très, très magnifique. Les Français connaissent Brighton Breitenbach, qui est un poète sud-africain qui vivait à Paris en exil, qui faisait la prison pendant l'apartheid, qui écrit des poésies en afrikaans. C'est une langue un petit peu menacé aujourd'hui, mais moi je ne fais pas de soucis. Il y a beaucoup de musique, les jeunes écoutent la musique en afrikaans, et comme je dis, il y a des centaines de livres qui sortent, la littérature, plein de choses en afrikaans. Donc, et puis ici, dans les magasins, on parle afrikaans souvent.
Mais c'est une langue, quand vous dites, elle est menacée. C'est-à-dire que c'est une langue que même les descendants d'Afrikaners ont du mal à... ou ne se transmettent plus? Ou c'est une langue qui continue?
Non, ça continue, absolument. Mais c'est menacé par la politique du gouvernement qui, bien sûr, ne veut pas... C'est une langue liée à l'apartheid, quelque part. Il y a un grand débat en Afrique du Sud et surtout à l'université. Est-ce qu'il faut insister que ça reste une université afrikaans? Il y a 3 ou 4 universités qui sont toujours en afrikaans.
Et si on plonge dans le temps, c'est en 1976, un fameux 16 juin, que Soweto s'embrase pour justement lutter contre cette idée du gouvernement de l'époque d'imposer l'afrikaans à tous les étudiants qui n'avaient aucune envie de parler la langue du colon.
Oui, absolument. Donc, il fallait se défaire de cet stigmatisme. Mais il faut dire que l'anglais aussi, c'est la langue de colon.
I don't know what did we do that was that worse, to deserve a bullet instead of a book.
Je ne sais pas ce qu'on a fait de si terrible pour mériter une balle plutôt qu'un livre.
Nicolas Thiel, les choses ont bougé à partir du début des années 90 avec le gouvernement de Clercq. Vous avez assisté à tout ce processus que vous avez appelé de vos voeux. Rien ne vous obligeait à avoir envie que ce pays change, puisque vous êtes héritier d'une longue saga familiale de pionniers ici, d'Afrikaners et aussi d'Anglais.
Oui, mais avec la famille, mon père, il était prêtre dans l'église anglicane, c'est-à-dire il pouvait marier, évidemment. Et mon grand-père maternel, il était aussi prêtre. Donc les deux étaient dans la lutte contre l'apartheid dès le départ. Et quand on a grandi comme ça, c'était bien clair que l'apartheid n'était pas bon. Et en fait, c'était pire que ça, c'était absolument affreux. Et quand j'ai grandi un peu plus, et quand je suis arrivé à l'université ici à La Witte, j'ai changé pour devenir vraiment contre l'apartheid. Et franchement, de plus en plus à gauche. Et à cette époque-là, nous étions vraiment avec les communistes, les socialistes, contre l'apartheid. Et malheureusement, il y avait très peu de blancs qui étaient contre l'apartheid à cette époque-là. Maintenant, ça s'est amélioré profondément parce qu'il y a même beaucoup de blancs qui acceptent que l'apartheid était un crime contre l'humanité. Mais ils tiennent toujours leurs avantages de la richesse ici en Afrique du Sud. Donc, c'est ce que je disais il y a quelques moments. On a gagné la lutte politique. Maintenant, il faut gagner la lutte économique.
S'il y a une chose aujourd'hui qu'il est conseillé de faire aux visiteurs, c'est de ne pas partir de Joburg, de Johannesburg, sans être passé par Soweto. Vous savez, Nicolas Thiel, il y a près de 250 000 visiteurs qui font du tourisme là-bas par an et visitent ce quartier emblématique de la lutte contre l'apartheid.
Il y a beaucoup de visiteurs. Et franchement, la première fois que je suis allé à Soweto, c'était en juin 1980. Et à cette époque-là, Soweto était dans un état vraiment lamentable. Et maintenant, vous allez voir, c'est amélioré dans une façon magnifique. Vous allez voir.
Et près de 3 millions de personnes y vivent?
On ne sait pas exactement combien de personnes habitent dans Soweto. Il y a des gens qui constatent que c'est 2 millions. Il y a même des gens qui constatent que c'est à peu près 4 millions.
On est à combien de minutes de route? Si tout fonctionne bien,
ça fait à peu près 32 minutes à partir d'ici.
Et sur votre vieille BMW, qui est presque vintage, il y a sur la plateforme arrière un exemplaire d'un vieux, un peu jauni, d'un journal qui montre Mandela à la une.
Oui, c'était le journal Sowetan. Ça a été publié le jour après Nelson Mandela est mort. Et donc, je le garde parce que ça aide aux gens pour me comprendre tout de suite que je suis pour les changements ici en Afrique du Sud. C'est pratique, c'est un code.
C'est presque une vignette, c'est presque un insigne, c'est presque un laissez-passer.
Oui, c'est ça.
Afrique du Sud, à nouveau des émeutes à Soweto, la ville récemment touchée par des violences meurtrières. Elles avaient fait, au mois de juin, près de 200 morts et plusieurs milliers de blessés. La police attendait la nouvelle manifestation pour obtenir la libération des Africains arrêtés lors du soulèvement de juin dernier. Elle n'a pas eu tort. 10 000 personnes sont actuellement rassemblées face aux forces de l'ordre qui ont déjà tiré et tué 3 jeunes gens. La vie de nouveau paralysée dans cette ville de Soweto, écoles, magasins et transports en commun ne fonctionnent plus.
To climb up the mountain and reason against habit, now is the time. Now is the time to review the barren soil of nature, ringed by the winds of tyranny. Now is the time. Now is the time to commence the litany of hope. Now is the time. Now is the time. Yes, it is the time.
Soweto est où?
ici à notre droite, à peu près 20 km d'ici.
Évidemment, il est hors de question de visiter en si peu de temps l'étendue énorme que peut représenter ce township de Soweto, qui a un visage bien différent de celui que vous avez connu au début des années 80. Mais on va faire une plongée dans le temps ensemble et on va revenir justement, Nicolati, au début de ces années-là et surtout en 1976, où il s'est passé là-bas le soulèvement général des étudiants et la répression qui en a suivi.
Oui, en 76, c'était, à mon avis, le point où l'apartheid a commencé à être démoli. C'était les manifestations scolaires, en fait, des jeunes, contre quelque chose assez banal. Ça a été exigé, selon le gouvernement à cette époque-là, que toutes les écoles à Soweto et partout ici en Afrique du Sud, pour les Noirs, devraient utiliser l'Afrikaans pour un moitié de tous leurs sujets. Évidemment, ils ont utilisé l'anglais et d'autres langues pour le reste des sujets. Mais c'était le prétexte pour manifester contre l'apartheid. Et les manifestations commençaient le 16 juin 1976, continuaient jusqu'au décembre cette année-là, partout en Afrique du Sud. Les policiers ont tué plus que 2000 enfants pendant les 6 mois. Dans le musée où nous allons, il y a une petite brique avec le nom de chaque personne morte. Et vous allez voir.
Et ce musée est un mémorial. Il porte le nom de cet écolier,
oui, c'est ça,
de 16 ans.
C'est Hector Peterson. Il a été la première personne tuée, mais en fait, il était le deuxième. On va le voir même dans le musée. Et si on regarde maintenant ici à droite, il y a un parc d'amusement. Juste à côté de ce parc, on voit les rails d'une ancienne mine. Et à côté, il y a un casino. Vous voyez?
Oui.
Et derrière le casino, il y a le musée d'apartheid.
Ça fait un étrange entremêlis de symboles.
Ça, c'est typiquement l'Afrique du Sud. Dans ce sens-là, l'Afrique du Sud est vraiment un pays super capitaliste.
Sorry, Kelly Reinhardt, hold nobody loud. Everybody's looking for the
sun. Je suis sûr que ce sont les oiseaux qui vous réveillent le matin dans votre maison de Melville, ici, Lisselle Vaudran.
Oui, souvent. Souvent, c'est des oiseaux. C'est des hadidas. Je ne sais pas si on connaît ça en France. Hadida, c'est un oiseau assez grand. C'est immense. Ils font un bruit qui peut te réveiller le matin.
Ce sont les ibis. Oui.
Les ibis, absolument.
Et je ne sais pas si ce sont des bruits ici qui ressemblent au bruit que vous pouviez entendre dans votre maison de Pretoria, parce que c'est à Pretoria que vous êtes né en 1967.
Oui, absolument. Je suis né à Pretoria, d'une mère anglophone à un père africaner depuis beaucoup, beaucoup de générations. Mon père est né au Zimbabwe, dans le sud du Zimbabwe, où son père et mon arrière-grand-père aussi étaient des missionnaires africaneurs au Zimbabwe.
C'est eux qui ont été, en quelque sorte, les pionniers.
Oui, c'était des pionniers. Et puis, sont venus les anglophones après pour coloniser le reste de l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, toute la région, jusqu'en Zambie, etc.
Ça a donné des combats sanglants, cette guerre. Il y en a eu même deux, entre Anglais et ceux qu'on appelle les bourgs, c'est-à-dire ces pionniers, ces fermiers africains.
Ah oui, oui, absolument. Parce que les bourgs ont donc colonisé le nord de l'Afrique du Sud, ont fondé des républiques, deux républiques bourgs. Il y a des Français qui vont se rappeler qu'il y en a qui sont venus soutenir la République Bourg contre les Anglais.
Dès qu'on peut aider les gens qui se battent contre les Anglais, on est là. On a fait la même chose avec les Irlandais.
Absolument. Je pense que c'était dans le même esprit. Malheureusement, l'histoire a été faite comme ça. Donc, les Bourgs ont perdu. Les Anglais ont fait venir leurs troupes de l'Angleterre. C'était une guerre, des deux guerres, comme vous dites, très sanglantes. Il y a des camps de concentration. On dit toujours que c'était les premiers camps vraiment de concentration parce que il y avait des milliers de morts, tout ça. Mais bon, c'est l'ancienne histoire. On n'aime pas trop en parler maintenant.
1967, on va commencer avec cette date qui est celle de votre année de naissance. Là, on est dans une histoire plus contemporaine. Elle n'a pas 50 ans. Mais il va vous falloir attendre 23 ans avant de voir tomber le régime de l'apartheid, de le voir s'effriter jusqu'à l'élection en 1994 de Nelson Mandela, après sa libération en 1990. Comment vous avez vécu, vous, toutes ces années d'apprentissage, ces années de jeunesse, dans l'insouciance qui caractérise souvent ces familles blanches de colons?
Oui, oui, absolument. On avait une enfance de rêve. Dans les banlieues de Pretoria, il n'y avait aucune insécurité. On est allé à l'école en vélo. C'était au lycée, ce qu'on appelle high school, quand on était adolescent, que vraiment, moi, je sentais très fort la pression d'un régime qui s'est endurci beaucoup. Il y avait beaucoup d'indoctrination, surtout cette menace communiste, parce que c'était la guerre froide dans les années 70, 80. Donc, on disait que les Blancs en Afrique du Sud, en fait, se battent contre l'ANC qui est communiste. On se bat pour les valeurs chrétiennes, etc. Le truc classique, que aussi l'Église venait s'ajouter à ça en disant les Africains sont élus par Dieu dans cette Afrique pour amener la civilisation, tout ça, qui paraît ridicule maintenant, mais c'était quand t'es jeune, ce sont des notions qui nous ont vraiment été du matin au soir à l'école. Maintenant qu'avec nos amis, on s'est réunis, ça nous paraît presque inimaginable. Cette indoctrination à la propagande d'une hiérarchie, il ne fallait surtout pas questionner, il ne fallait surtout pas s'opposer à quoi que ce soit. C'était surtout ça qu'il fallait éviter pour le régime d'apartheid, que les jeunes blancs commencent à se poser des questions et s'opposer au régime d'apartheid. Et c'est surtout, moi, je pense que c'est par la culture, par les écrivains, la jeune génération blanche sont rendus compte de ce qui était l'apartheid. Parce que quand tu vis comme ça, enfermé, tu te rends pas vraiment compte. Par la musique aussi. Il y avait des jeunes chanteurs qui rassemblait des milliers de jeunes Afrikaners qui chantaient contre le régime et qui faisaient très peur. Moi, à l'université, c'était ça le cas.
Forever left a blood stain. So we declare this a holiday. So where the youth to rally in the streets are all we'll hear. With their fists high in the air. Hector Peterson, your death forever left a blood stain. So we declare this a holiday. So where the youth to rally in the streets are all we'll hear. With their fists high in the air. June 16th, 1976, though a normal day of tension grew
into something tragic. South Africans are rising in the township of Soweto, home of two Nobel Prize winners, Tutu and Mandela. Cause the language is taught, Afrikaans in school, a system of apartheid to control and rule. They knew a foreign language would make their scores hurt, to keep the black man from doing more than service work. I said, heck to be the senior that forever left a blood stain. So we declare this a holiday. So where the youth will rally in the streets are all we'll hear, with their fists high in the air. Heck to be the senior that forever left a blood stain. So we declare this a holiday. So where the youth will rally in the streets are all we'll hear, with their fists high in the air. Test in peace at the corner of Moami, where it meets Villa Kazi. Armed with the voice singing the Soto anthem against guns and ammunition and the violence you'd imagine. Police shot tear gas and then bullets would pass, killing so many people, more than five, and then would pass. So we, and you were only at the age of 13. Resistance is your memory. Heck to be the senior that forever left a blood stain. So we declare this a holiday. So where the youth will rally in the streets are all we'll hear, with their fists high in the air. Heck to be the senior that forever left a blood stain. So we declare this a holiday. So where the youth will rally in the streets are all we'll hear, with their fists high in the air.
Inter.
You're listening to
Terre d'Alliance.
Terre d'Alliance.
Un tour du monde estival
in Johannesburg
au sein des Alliances françaises.
South Africa with Alexander Héro.
Alors, welcome to Hector Peterson Museum.
Oui, c'est ça. Bienvenue ici. Ça raconte l'histoire de 76. Le prétexte pour commencer toutes les manifestations était contre l'enseignement de l'afrikaans dans les écoles.
Regardez. Afrikaans must be abolished. Oui. L'afrikaans doit être aboli. Ça montre une chose, et vous devez être sensible à cela, Nicolati, vous, l'ancien président de l'Alliance française de Joburg. C'est l'importance d'une langue pour une identité, pour un peuple. Absolument. On n'impose pas une langue par la force.
Non, on ne peut pas. Il faut plutôt inviter aux gens pour parler. Une langue, de temps en temps, il y a des gens qui l'apprennent parce que c'est nécessaire pour le commerce, comme anglais partout ici en Afrique. Une langue forcée sur les gens, ça provoque toujours les malentendus et tout de suite après les manifestations et après la lutte contre cette langue.
C'est le plus grand marqueur d'une culture. C'est le seul, c'est le vrai véhicule.
Je crois, oui. Ouais. C'est le cœur d'une culture. C'est pourquoi, en Afrique du Sud, bizarrement, selon ma connaissance, c'est le seul pays dans le monde entier où il y a un monument pour une langue. C'est le Taal Monument et c'est pour l'afrikaans. Ça se trouve au Cap. C'est un monument pour une langue.
Comme si elle était menacée, il fallait la statuer. Mais oui, le vrai monument pour les langues ici, c'est la Constitution qui l'a érigée, puisqu'on a reconnu, je crois, en Afrique du Sud, 12 langues officielles.
Non, on a 11 langues officielles. Oui. Parmi les 11 langues, évidemment, l'anglais est utilisé ici en Afrique du Sud dans le commerce. Mais au quotidien, je constate que le Zulu, c'est le plus grand parlé ici en Afrique du Sud. Et Zulu fait partir d'une branche des langues bantoues qui s'appelle Nguni.
Et là, ce qui nous accueille, ce qui accueille les visiteurs, à côté de la boutique Souvenir, une fois qu'on a pris le ticket d'entrée, c'est un immense portrait de Nelson Mandela avec un hygiaphone, un portrait qui a été pris en 1995, le 16 juin, pour l'anniversaire, presque le 20e anniversaire de ces émeutes. Et ensuite, on a des énormes panneaux sur lesquels sont reproduits les photos de l'époque, de ce soulèvement. Et ce qui est très impressionnant, c'est de voir tous ces écoliers défiler avec ces banderoles, tous en uniforme.
Oui, mais regarde, ils sont tous à peu près souriants. Tous. C'est fascinant, n'est-ce pas? C'était vraiment une manifestation. Ils ne savaient pas que ça allait devenir difficile. Et ils ne savaient pas qu'ils vont être tués par les policiers.
Et là, sur notre droite, devant ces panneaux muraux avec ces photos de ce soulèvement, toutes les briques qu'on a évoquées tout à l'heure qui portent le nom de ces étudiants assassinés. Assassinés, est-ce que c'est un terme qui convient pour l'avocat que vous êtes, Nicolati?
Non, assassinés, c'est plutôt individuel et correctement politique. C'est plutôt fusillés.
Et il y a deux femmes qui sont là, en train de marcher autour des briques, parce que ce qui est intéressant, Nicolas, c'est que il y a un espèce de parcours qu'on est obligé de faire comme un devoir de mémoire, c'est-à-dire marcher au milieu des morts.
Oui, c'est ça. C'est toujours fait parce que c'est de rendre hommage aux gens qui ont lutté contre l'apartheid. Et donc, ça, voilà, on a les espaces pour marcher entre les briques. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche sur les briques. C'est toujours entre les briques.
On ne piétine pas la mémoire.
Non.
L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Afrique du Sud, M. William Barner, et le vice-ambassadeur auprès des Nations Unies, M. Don McHenry, se sont rendus tôt ce matin au township de Ginsberg pour rendre hommage à Stephen Biko. La famille et les amis de Biko ont organisé des funérailles avec un sens aigu du cérémonial. Le cercueil a été transporté dans un corbillard de la maison de Stephen Biko dans le township jusqu'au stade de sport dans le centre de King Williamstown.
You're listening to
Terre d'Alliance.
Terre d'Alliance.
Alexandre Hérault.
Sex Boys.
At Johannesburg.
Boys.
Sur France Inter.
I think you're freaky and I like you.
South Africa with.
I think you're freaky and I like you.
With Alexandre Hérault.
Lissol Vaudran. Vous aviez l'impression de vivre dans ces années 70-80 dans une île, puisque après 76 et les émeutes de Soweto, après sa répression qui a continué en 77, on se souvient de l'assassinat de Steve Biko, vous aviez l'impression de vivre totalement isolé, exclu du banc des nations.
Oui, totalement exclu, absolument. Je pense que c'est ça aussi qui a fait craquer... Le parti national, le régime au pouvoir, parce qu'on pouvait plus faire du sport, on pouvait plus accueillir des artistes du monde entier. Je veux dire, il y avait la télévision qui est venue tardivement en Afrique du Sud parce qu'il fallait surtout pas aussi savoir ce qui se passe dans le monde. Bon, c'était très contrôlé par l'État. Je parle d'ailleurs dans mon livre, c'est la compagnie nationale aérienne sud-africaine, South African Airways, a été même interdit de survoler le continent africain. Et, les sanctions contre l'Afrique du Sud commençaient à marcher à cette époque-là. Bien sûr, il y avait beaucoup d'hypocrisie, il y avait beaucoup de pays qui faisaient semblant de soutenir la lutte anti-apartheid et que le faisaient pas vraiment. Mais franchement, c'était devenu vraiment complètement intenable à la fin. Et de Klerk ne pouvait plus tenir un système ainsi.
Ce qui est intéressant, c'est que dans votre livre « L'Afrique du Sud en Afrique », avec cette interrogation qu'il porte, « Superpower », super-pouvoir ou néocolonialisme, vous exposez en introduction justement ce qui a pu être les relations entre l'Afrique du Sud, votre pays, et les autres pays africains.
Les Sud-Africains et la jeune génération de Sud-Africains noirs et blancs ne connaît pas l'histoire de l'Afrique du Sud en Afrique. C'est clair, et rien n'est fait vraiment pour honorer, si je peux dire, cet héritage qui me semble important quand même.
C'est pour ça que votre préfacier n'hésite pas à dire que tout ce que vous révélez de ces relations entre l'Afrique du Sud et ses voisins africains, c'est quelque chose de fascinant, mais, précise-t-il, de très perturbant.
Oui, parce que je pense que beaucoup de gens seront surpris par certaines de ces informations. Les Sud-Africains de tous bords sont convaincus qu'ils sont supérieurs. Nous sommes portés à de rêves. We are revered here. Les gens nous vénèrent. Et c'est exactement. Les gens nous vénèrent. Et en fait, c'est pas du tout ça. Si tu parles avec les gens, c'est hallucinant parfois, la manque de connaissances. Bon. Ça date de l'époque d'apartheid. On était très enfermés. Mais la réalité, c'est que la façon dont les Sud-Africains se comportent en Afrique, souvent, est très arrogant, avec beaucoup d'ignorance des sensibilités locales. Et les Africains n'aiment pas du tout ça. Et on est traités de néocolonialistes.
Ces relations sont d'autant plus compliquées qu'il se passe des choses assez épouvantables ici, que la journaliste que vous êtes avait forcément étudié, scruté. Lissol Vaudran, il y a eu en 2008 le début d'actes xénophobes, d'explosions xénophobes qui en ont inquiété plus d'un et qui continuent aujourd'hui.
Oui, c'est extrêmement grave. En 2008, il y avait plus que 60 morts dans les attaques xénophobes en Afrique du Sud. L'année dernière, en 2015, il y avait moins de morts, mais il y avait milliers de gens qui étaient déplacés, qui étaient chassés de leur maison par des attaques xénophobes qui ont commencé dans la région de Durban et ici, dans le Gauteng, à Johannesburg.
Que ça soit clair, ce ne sont pas, sans jeu de mots, des attaques de blancs contre des noirs. Ou le contraire.
Ah non, 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 c'est noir contre noir. C'est les Sud-Africains contre les immigrés d'ailleurs. C'est une violence, bien sûr, ça fait peur aux Blancs. C'est bon, avant on s'en prend aux étrangers, après on s'en prend aux Blancs. C'est-à-dire, il y a derrière la tête, il y a un peu ça aussi.
Des attaques xénophobes touchent Johannesburg et sa banlieue depuis une semaine et ont provoqué la mort de 22 personnes, des violences contre les étrangers qui bouleversent la blogosphère locale. Ce photomontage montre l'ampleur des violences qui secouent le pays. On y voit des étrangers du Zimbabwe voisin pour la plupart. On sent et des corps sans vie jonchant les rues après des attaques xénophobes. Les réactions de blogueurs choqués par de telles images se multiplient sur les forums de discussion sud-africains. Certains appellent à mettre un terme au meurtre d'innocents, tandis que d'autres demandent à leurs compatriotes de faire preuve de compassion vis-à-vis des immigrés.
Marc, je suppose.
Bonjour.
Comment allez-vous? Vous êtes en pleine réunion?
Je suis en pleine réunion, mais non, c'est prévu que je quitte, donc je pars.
Ici est né en 2008 l'African Diaspora Forum, le Forum africain de la diaspora. Si je traduis, ça veut dire une chose, Marc Bafou, c'est qu'il y a eu en 2008 des événements qui vous ont imposé de vous rassembler, de réfléchir et d'agir. Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, en mai 2008, il y a eu une vague d'attaques xénophobes sur les migrants, donc en général les gens qui viennent des pays d'Afrique, qui se sont installés dans un township qui s'appelle Alexandra, juste à peu près à 5 km d'ici, de Johannesburg. Et après 2 semaines, on a dû remarquer que le gouvernement était en train de se demander est-ce qu'on fait sortir la police, est-ce qu'on fait sortir l'armée. La réalité, c'est que chaque jour, on comptait le nombre de victimes. Et après 2 semaines, c'est 62 personnes qui ont été tuées, d'autres brûlées vifs. Et nous, on paniquait. Et ça s'est propagé sur toute l'étendue du territoire sud-africain.
Et pourquoi ces attaques ont-elles eu lieu, Marc Bakfou?
Mais il y a plusieurs raisons que les gens donnent. Que les migrants viennent chez nous, ils nous prennent le travail. Les migrants viennent chez nous, ils sont illégaux. Les migrants viennent chez nous, ils prennent nos femmes. Donc des histoires comme ça, c'était horrible. Et donc nous, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait créer une association tout de suite, pendant que les attaques étaient encore en cours. Il faut rapidement, on doit faire savoir au gouvernement qu'il y a une plateforme qu'il peut utiliser pour parler avec les migrants. L'année passée, lors des attaques xénophobes...
Parce qu'elles ont duré, ces attaques. On parlait de 2008 ensemble et de ces 62 morts, ouais. Marc Bakfou. Mais l'année dernière, en avril 2015, à nouveau, dans certains quartiers de Johannesburg, des populations, des centaines de personnes s'attaquent à des populations migrantes, nigérianes ou autres nationalités, avec les mêmes, avec la même soif d'en découdre.
Oui. Au fait, les attaques sur les migrants sont des attaques assez fréquentes. C'est parce que, malheureusement, les médias n'en parlent pas, personne ne sait. Les migrants sont constamment attaqués dans leur petit commerce. Et puis, nous, on dit que c'est en quelque sorte la discrimination en Afrique du Sud est en train d'être institutionnalisée, de sorte quand tu vas dans les institutions comme les universités, les migrants sont traités autrement parce que tu es migrant. Soit on te rappelle que tu es migrant, on te pose des questions comme si quand est-ce que tu pars dans ton pays.
Ça reste une terre de ségrégation où le racisme finit par primer. Ce qui surprend le plus l'observateur étranger, c'est que ce sont les Noirs qui s'attaquent à leurs frères. Alors il y a une espèce d'incompréhension totale. Ça veut dire que finalement, on buterait ici au pays de la nation arc-en-ciel devant toujours le même problème?
Écoute, ce qu'on est en train de dire, c'est que le gouvernement n'a pas fait un travail. Le travail essentiel, c'est que, bon, effectivement, on voulait que l'apartheid finisse. Mais la fin de l'apartheid en 1994, on n'a rien prévu pour, en quelque sorte, laver les têtes et apprendre aux gens de vivre ensemble. Ça n'a pas été fait et malheureusement, ce n'est pas fait. On voit que les membres du gouvernement eux-mêmes qui ont quitté l'Afrique du Sud pendant l'apartheid et qui sont revenus et qui sont au pouvoir, encouragent la discrimination, encouragent les attaques. Et c'est ça qu'on ne peut pas comprendre. Voilà. Et donc, pour nous, ce qui devait être fait, c'est que aller dans les écoles, commencer à dire comment est-ce que le reste de l'Afrique a contribué pour que l'Afrique du Sud soit libre. Ça n'a jamais été fait. Ils apprennent rien de l'Afrique, on ne leur apprend pas ce qui s'est passé pendant l'apartheid et comment est-ce que l'apartheid a été combattu. Rien, personne ne leur dit ça.
Il y a un déni d'Afrique. En Afrique du Sud, il est étonnant de constater qu'effectivement, beaucoup regardent plutôt vers le reste du monde plutôt que vers l'intérieur des terres, leur continent.
Voilà. C'est très aberrant. Je suis choqué parce que pour moi, ce pays devait apprendre aux jeunes quels sont les différents pays de l'Afrique. Il faut leur dire qu'en Afrique, il y a 54 pays dont l'Afrique du Sud. Ça, ils ne savent pas. C'est ce travail-là que nous disons, en tant que la diaspora africaine, nous disons que non. Nous luttons pour l'intégration des migrants en Afrique du Sud. Nous luttons pour que les jeunes sud-africains comprennent le reste de l'Afrique et comprennent pourquoi quelqu'un peut se déplacer d'un pays, peut voyager, peut venir ici. Quels sont les défis que les gens ont dans leurs différents pays? Pourquoi ils se déplacent? Pourquoi ils viennent en Afrique du Sud? Et quand ils viennent, comment est-ce que ces gens contribuent aussi à l'économie du pays? Personne ne veut parler de ça. Voilà.
Dernière rencontre avec la professeure au département de littérature francophone à l'université de Johannesburg, Polo Benina Moji, qui est membre du conseil d'administration de l'Alliance française de Johannesburg.
Parfois, je remarque la similitude parfois entre Paris, ce que vivent les banlieusards, les petits jeunes aux banlieues, et les jeunes sud-africains maintenant, 22 ans après la libération du pays. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de malaise, d'un rêve qu'ils n'arrivent pas vraiment à réaliser. Et, ils attendaient mieux, ils attendaient un changement. C'est la nation arc-en-ciel, en fait. Hein? Le mythe qu'on a cru hein, pour vraiment créer cette nation. Mais là, les gens sont en train de dire, mais peut-être c'est pas si facile que ça. Parce que si, du point de vue économique, les Noirs sont toujours en bas d'échelle et la richesse reste toujours avec une petite minorité, si les institutions ne sont pas vraiment changées pour accueillir les jeunes Noirs qui maintenant attendent être intégrés, attendent être entendus, c'est là où en fait on a des clashs. C'est là où les gens commencent à se remettre en question de l'idée même d'être libre. Parce qu'ils se disent, mais du point de vue structurel, rien n'a changé.
Mais le vertige est d'autant plus grand pour tous ces gens que l'ANC, le parti de Nelson Mandela, est toujours au pouvoir, a toujours été au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, et que donc on a l'impression qu'il y a un rêve confisqué par ceux qui l'ont eux-mêmes créé.
Oui, oui, oui. Et une espèce de colère contre, je dirais, le père, hein, le père de la nation dans un certain sens. Parce
et le père est absent, c'est ça qui est terrible.
Le père est absent, oui. Il est absent et là, on voit vraiment les gens qui essayent de dire « Mais c'est qui peut nous sauver ? En fait, il faut nous sauver nous-mêmes. »
Non seulement le père est absent, Nelson Mandela n'est plus, mais en plus, ceux qui l'ont remplacé, les pères de substitution, sont défaillants. Et la figure qui vous sert actuellement de président de la République depuis deux mandats est un personnage fantasque, complètement romanesque. Je ne sais pas, la littérature qui est votre domaine s'en est emparée ou pas?
Il me fait penser à un roman qui s'appelle « L'expert de la nation » Aminata Sofol. La différence est que dans le roman d'Aminata Sofol, le père de la nation était un peu naïf, c'est-à-dire il était un peu plus idéaliste et puis il se fait manipuler peut-être par les autres. Ici, on voit quelque chose de complètement différent, quelqu'un qui manipule peut-être le système pour bénéficier son entourage. Les gens font, énormément de manifestations à Johannesburg en ce moment. C'est pas non seulement les étudiants, mais les gens dans le township qui disent j'ai toujours pas de maison, j'ai toujours pas l'eau potable, j'ai toujours pas l'électricité. Et la répression parfois qu'on voit avec la police, hein, quand ils entrent dans ces situations-là, c'est décevant. Bien sûr, ils sont déçus, bien sûr, ils ont le droit de manifester.
Terre d'Alliance.
France Inter.
Tierra de Alianza.
Ce voyage en Afrique du Sud, réalisé avec la complicité de toute l'Alliance française de Johannesburg et particulièrement de son directeur Jean Bourdin, touche à sa fin. La semaine prochaine, nous entamerons notre ultime étape de ce voyage planétaire estival en nous rendant dans la ville où le monde entier s'est donné rendez-vous, à savoir Toronto, au Canada, qui se construit avec l'énergie de chaque nouvel arrivant. Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur notre site internet franceinter.fr. Et la page de notre émission, pardon, contient aussi des bonus multimédia photos et vidéos élaborés par Léa Minot, notre community manager, assisté de Rachel Chiche, dont une vidéo vous amenant au musée Hector Peterson que nous avons visité avec Nicolas Sty. Les références du livre de Liesel Lowe-Vaudran, Afrique du Sud, Superpower ou Néocolonialisme, se trouvent sur la page de l'émission. Nous avons aussi une page Facebook et un compte Twitter, hashtag Terre d'Alliance. Programmation musicale, Thierry Dupin. Mixage, Florent Layani. Derrière la console de diffusion, Dimitri Gronoff. Une série d'émissions réalisées par Bertrand Chaumeton et proposée par Alexandre Hérault avec la Fondation Alliance Française.